Soyez les bienvenus sur RFI, Radio France Internationale. Il est 1h à Paris, minuit en temps universel. Et voici un nouveau point sur l'actualité de notre planète.
Jérôme Bastion.
Dans l'actualité de ce dimanche 10 novembre 2024, au Proche-Orient tout d'abord, les deux protagonistes du conflit ouvert le 8 octobre 2023 sont désormais abandonnés à leur rhétorique belliqueuse, puisque le Qatar, qui menait depuis des mois une délicate diplomatie de médiation entre Israël et le Hamas, jette l'éponge et suspend ses efforts. Le chef de la diplomatie européenne a tenu à faire une visite fort symbolique à Kiev ce samedi, alors que l'inquiétude gagnent les dirigeants ukrainiens et leurs partenaires européens sur la poursuite par Washington du soutien à l'Ukraine. Josep Borrell a rappelé le soutien indéfectible des 27. La Corée du Nord mène depuis vendredi une campagne de brouillage de signaux GPS ayant déjà affecté des navires et des avions civils en Corée du Sud, affirmation de l'armée sud-coréenne. Et puis nous terminerons avec un détour par les États-Unis où l'État du New Jersey entend se démarqué de la politique de Trump en matière de climat. Au Proche-Orient, donc, le Qatar retire sa médiation. Le terme officiel employé est « suspend sa médiation » entre Israël et le Hamas palestinien, après des mois d'efforts diplomatiques infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait mené une médiation menant à une première et unique trêve en novembre 2023. Elle avait duré une semaine et permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Mais depuis, plus rien. L'émirat du Golfe, qui hébergeait aussi jusqu'ici le bureau de l'organisation palestinienne, responsable de l'attaque du 7 octobre contre Israël, un bureau du Hamas qui n'aurait plus de raison d'être selon les Qatariens. Pierre Olivier.
Israël et le Hamas sont prévenus, assure Doha. L'émirat ne jouera plus les intermédiaires tant que les deux camps refusent de négocier un accord de bonne foi, explique une source diplomatique. Terminée donc la médiation du Qatar pour mettre fin à la guerre après de nombreuses sessions de négociations infructueuses. En conséquence, le bureau politique du Hamas, qui était depuis plus de 10 ans à Doha, n'a plus de raison d'être, précise cette même source, et n'est donc plus le bienvenu sur son sol. C'est maintenant vers la Turquie ou l'Iran que pourrait se tourner l'organisation pour être hébergée à l'avenir. Cette décision du Qatar intervient après que l'administration de Joe Biden a fortement fait pression sur son allié pour qu'il défasse ses liens avec le Hamas, estimant que la médiation de l'émirat n'avait pas porté ses fruits en l'absence de tout accord. Pour assurer la future médiation entre l'État hébreu et l'organisation palestinienne, les regards se tournent désormais vers l'Égypte, alors que 63 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas et que la guerre a fait plus de 43 500 morts à Gaza, selon l'organisation.
Mais un porte-parole des affaires étrangères du Qatar rejette les informations d'une source diplomatique qu'évoquait Pierre-Olivier à l'instant, qui avait laissé entendre que le Qatar pourrait fermer le bureau du Hamas à Doha, le bureau qui donc reste officiellement ouvert pour l'instant. En Ukraine, maintenant à Kiev, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a rendu visite à ses homologues sur place pour rassurer les Ukrainiens et leur réaffirmer le soutien indéfectible de Bruxelles. Ce alors que l'élection de Donald Trump aux États-Unis inquiète en Ukraine et en Europe sur la suite que pourrait connaître ce conflit avec la Russie. Josep Borrell, qui doit quitter ses fonctions le mois prochain, mais qui a maintenu son cap avant de mettre les voiles. On l'écoute.
C'est une visite avec un objectif clair, émanant directement du Conseil européen qui s'est tenu à Budapest et après l'élection américaine. L'objectif clair de cette visite, c'est de souligner le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Ce soutien reste inaltérable. Ce soutien est absolument indispensable pour que vous puissiez continuer à vous défendre contre l'agression russe.
Against Russia, aggression. Et c'était donc Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. De son côté, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a fait état samedi de la présence de troupes nord-coréennes prêtes à combattre aux côtés des forces russes. Selon lui, de nombreux rapports sur des soldats nord-coréens se préparant à participer à des opérations de combat aux côtés des forces russes, a écrit Oleksandr Sirski sur son compte Facebook à propos de sa conversation avec le général Christopher Cavoli, qui dirige le commandement américain en Europe. Selon Oleksandr Sirski, la situation en première ligne dans la guerre avec la Russie, qui dure depuis plus de 2 ans et demi, reste difficile et montre même des signes d'escalade. Le trafic naval, autant qu'aérien, est fortement perturbé en Corée du Sud par des brouillages GPS dont la Corée du Nord est, semble-t-il, à l'origine. Depuis 2 jours, les signaux et les appareils de navigation sont en effet difficilement utilisables sur les côtes sud-coréennes. Les explications de notre correspondant sur place, Celio Fioretti.
Des perturbations qui n'ont heureusement pas causé d'accident. Le commandement militaire sud-coréen a prévenu tous les navires et avions de la zone de ne pas se reposer uniquement sur leur GPS pour éviter les drames. Les infrastructures militaires, elles, n'ont pas été touchées par ce brouillage. Ce n'est pas la première fois que le régime nord-coréen effectue des opérations similaires. En juin dernier, les signaux GPS au nord-ouest de la Corée du Sud avaient également été brouillés pendant plusieurs jours. Difficile de savoir quelles sont les motivations du régime derrière ces opérations, mais elles réussissent tout de même à inquiéter les Sud-Coréens des capacités nord-coréennes à perturber leur quotidien et leur sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale a elle aussi exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux opérations de brouillage nord-coréennes. Le chef d'état-major sud-coréen a précisé que Pyongyang serait tenu responsable de ces actes. Celio Fioretti, Séoul, RFI.
De l'autre côté de l'Atlantique, alors que l'adaptation à la nouvelle donne climatique agite l'Espagne, de l'autre côté aux États-Unis, le retour de Donald Trump inquiète les défenseurs de l'environnement. Climato-sceptique déclaré, le président élu a promis de sortir de l'accord de Paris et de détricoter, comme on dit, de nombreuses réglementations environnementales. Pour tenter de faire contrepoids, les militants du climat s'organisent, certains États aussi. Ainsi, le New Jersey a annoncé rejoindre une coalition internationale d'États et de régions en faveur du climat. C'est le premier à le faire depuis que les urnes ont parlé, même si d'autres États américains avaient franchi le pas lors du premier mandat de Donald Trump. Mis bout à bout, ces États pèsent lourd dans l'économie américaine, Simon Rosé.
C'est une coalition hétéroclite. Elle va de la ville de Sao Paulo au Brésil, à l'Écosse, en passant par le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et désormais le New Jersey américain. Le groupe Under Two, en référence à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, c'est une alliance d'États, de provinces et de collectivités qui s'engagent pour poursuivre une forte action climatique et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aux États-Unis, le New Jersey est la 8e économie du pays et son adhésion porte à 17 sur 50, le nombre d'États américains à rejoindre cette coalition. Un ralliement en réaction à l'élection de Donald Trump qui ne cache pas le peu de cas qu'il fait des enjeux climatiques. Avec parmi eux la Californie ou l'État de New York, ces États pèsent ensemble près de 46% du PIB américain. En leur sein, le New Jersey, quant à lui, met notamment en avant son objectif d'atteindre 100% d'énergie propre d'ici 2035.
Simon Rosé, et les suites en France de l'extraordinaire procès de Mazan. Chose rare, ce samedi, la Cour d'assises a cité un juge à comparaître à la demande d'un accusé, Laurence Théo.
Dans un procès aussi sensible, la juge Gwenaëlle Ajourneau a-t-elle mal fait son travail? C'est ce qu'ont voulu savoir les 30 pénalistes saisis de ce dossier tentaculaire. Des avocats qui interrogent une juge est une démarche inhabituelle. À la barre et durant 2 heures, la magistrate a dû s'expliquer sur la manière dont elle avait mené son enquête. Parmi les questions qui lui ont été posées, est-ce que oui ou non, Dominique Pellicot a livré sa femme à des clients sur des aires d'autoroute, comme l'avaient rapporté certains accusés aux enquêteurs? Ou encore, qu'en est-il des potentiels attouchements subis par la fille du couple, par son père? Des images de la jeune femme endormie ont en effet été retrouvées sur le matériel informatique de Dominique Pellicot. Gwenaëlle Ajourneau a répondu aux questions avec précision. Le viol de Pellicot sur sa fille, elle n'a pas réussi à obtenir de réponse. Le principal accusé a nié en bloc. pour justifier certains supposés manquements dans ses investigations. La magistrate a expliqué que sur un dossier de cette ampleur, on pouvait facilement faire 10 ans d'instruction et que le critère qui l'avait guidé était de pouvoir tenir le procès dans un délai raisonnable.
Et c'était un récit signé Laurence Théo du Service France de RFI. Et c'est maintenant la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient, vous le savez, dans 50 minutes sur RFI et il est 1h10 à Paris.